Radio Barque, notre 30e avec cette deuxième partie. Dans notre sommaire, il y a, Michel, les problèmes financiers du Théâtre de Narbonne, scène nationale.
Oui, alors là, Jean-Claude,
On découvre sans découvrir.
Oui, parce que cette situation, elle est bien connue. Enfin, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent à la vie politique locale, voilà. En tout cas, bon, je n'étais pas du tout... j'ai pas été du tout surpris en fait en lisant cet article dans la presse qui faisait observer que la situation financière du théâtre était difficile, j'utilise un euphémisme.
Hein. Donc, oui. Bon, rappelons que le directeur avait quitté entre guillemets le théâtre il y a déjà quelques temps.
Oui, alors ce qui m'a quand même le plus désolé quoi dans cet article. Alors je ne sais pas s'il reproduit fidèlement la pensée et les propos de certains qui ont été interviewés, notamment Jacques Bascou et Madame Bapp, c'est que voilà, il ressort de la lecture de ce papier que la faute de la responsabilité de cette situation incombait à une directrice qui vient d'arriver, quoi. Elle est là depuis quand, en fait?
Il n'est pas tout à fait ce qui est dit, quand même. Il est dit qu'elle savait, en mettant les pieds dans ce théâtre, où elle mettait les pieds. C'est à peu près ce qui est dit.
Non, moi, j'ai lu la phrase de Bascour. Encore une fois, bon, vraiment, la responsabilité de la gestion financière va être comptable.
Occupe le poste, oui.
Ah, c'est une manière quand même, relativement inhérente de dire, bon, écoutez, débrouillez-vous, quoi. C'est votre responsabilité, vous venez d'arriver. Hein, donc, assumez le passif de votre prédécesseur qui a géré la boutique pendant plus de 15 ans, quoi. Ce qui est quand même, c'est pas, voilà, on fait pas ça à quelqu'un, on ne dit pas ça à quelqu'un qui vient d'arriver.
Seulement, il faut bien préciser que c'est pas clair la gestion de ce théâtre, justement. Quels sont les pouvoirs, notamment de Monsieur Bascou, par exemple? L'agglo paye.
L'agglo paye pas que, il y a la région, en fait, le département et l'État. Et principalement. Alors, pourquoi l'État? Parce que c'est un établissement qui a un statut de scène nationale. Bon, quand on a un statut de scène nationale, on doit faire des programmations qui correspondent à un cahier des charges extrêmement précis, en fait, et extrêmement rigoureux. Je parle du point de vue du suivi de cette charte en termes culturels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, produire des spectacles comme on en trouve, je ne sais rien, moi, dans n'importe quel théâtre de village, dans les Corbières ou ailleurs. Donc, c'est pas possible.
Avec les avantages et les inconvénients.
Donc, on place le niveau culturel, entre guillemets, là aussi, de la programmation. Oui. Très haut, ne correspond pas forcément au niveau moyen
au public que nous avons ici.
Point. Mais c'est comme ça. Ça a été voulu.
Il faut le dire.
Ça a été voulu par Hubert Mouly, ça a été poursuivi par Michel Moynier, recruté avec comme directeur, Monsieur Massado. Oui. Et la gestion de cette programmation culturelle, donc la responsabilité, comme la gestion financière de l'équipement, est de la responsabilité d'une association. Une association, 1901, j'en dirai deux mots d'ailleurs entre parenthèses, 1901, qui est présidée par M. de Bailleul, qui a été nommé par le président du Grand Narbonne, Jacques Bascou, pour présider cette structure.
Cette association est responsable, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire, la responsable, quand on n'est pas financeur?
C'est une espèce d'interface, entre, d'une part, les financeurs qui sont là, qui participent à l'association, sont représentés. Et puis la directrice qui a vraiment l'autonomie, c'est une règle pour, quand on gère ce genre de choses, l'autonomie, on ne peut pas inférer dans la gestion, on ne va pas Jacques Bascou dire « Madame, je veux que vous programmiez Michel Galabru, je ne sais qui encore ».
Ce qui crée de fait une sorte d'État dans l'État.
Mais c'est comme l'Opéra de Paris, la Bastille, tous les grands équipements culturels. Et j'imagine mal, d'ailleurs, dans un élu se pointer dans la gestion culturelle d'un établissement pour dire, voilà, moi, ce que je pense, effectivement, de ce que vous deviez programmer. J'imagine le maire, le grand Jacques Bascou dire, la médiathèque, vous êtes abonné au Monde, ou je sais pas quoi, vire-moi ça. Non, pas possible.
Sauf que l'élu, on vient quand même lui demander des sous.
Revenons, déficit cumulé, 600 et quelques, 680, je crois, 1000 euros. La situation n'est pas nouvelle. Comment se fait-il qu'on la découvre aujourd'hui, Donc, c'est un problème structurel qui est, encore une fois, lié à cet établissement depuis qu'il existe. Et j'ajoute que dans ce type d'établissement, contrairement à ce que veut nous faire croire, il ne peut pas y avoir d'équilibre financier et comptable. Ce sont des équipements qui, par nature, enfin, par structurellement, sont déficitaires. Et la seule question qu'on doit se poser quand on est élu en charge, effectivement, de financer ce genre d'équipement dont on a la compétence, est de savoir quel est le niveau de déficit acceptable.
Tout est là.
Tout est là. Donc là, apparemment, si je comprends bien, 600 000 euros, c'est pas acceptable. Je précise.
C'était en 2014, apparemment.
C'était en 2014.
Rappelons aussi que l'agglomération Le Grand Narbonne subventionne à hauteur de grosso modo 1 million d'euros
par
an.
C'est ça. L'État, je crois, je ne sais plus combien, enfin, une somme relativement importante, etc. Alors, problème, donc, savoir quel est que les élus en charge, effectivement, et c'est la compétence de l'agglo, nous disent voilà, pour moi, quel est le niveau de déficit que je considère acceptable pour ce genre d'équipement.
Voilà, c'est la question qu'il faudra répondre.
Je constate qu'ils ne l'ont pas dit.
La question reste posée.
Deuxième problème, le mode de gestion associatif, qui est un mode de gestion qui de mon point de vue, ne correspond pas du tout effectivement à la nature, à l'importance de l'activité de cet équipement. Les élus, les députés et sénateurs ont voté une loi qui permet de créer des établissements publics culturels. C'est-à-dire ce sont des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial qui ont une consistance juridique beaucoup plus solide qu'une association de 1901, association de boulistes ou de joueurs à la belote.
Non, donc tu verrais ce genre de statut.
Dans les structures relativement importantes comme celle de Narbonne, ailleurs, des établissements publics de ce type ont été créés qui donnent une assise juridique et financière beaucoup plus stable dans le temps et une capacité effectivement à collecter des financements beaucoup plus importante. Donc je dis, il y a deux problèmes. Un, que les élus nous disent quel est le niveau de déficit acceptable pour cet établissement. Deux, qu'ils aient le courage de dire, mais ça suppose que l'on diminue, que l'on paye moins cher les spectacles qu'on va acheter. Et deux, que l'on supprime une partie de la masse salariale. J'attends effectivement que leur préconisation à la matière auprès de la directrice. Et trois, enfin, que l'on mette en place une structure juridique qui correspond à la nature et à l'importance de l'équipement qui est géré.
Voilà, deux vrais choix à faire sur ce théâtre. Et bien entendu, nous y reviendrons ultérieurement. Les investitures Macron qui viennent de tomber après avoir été désirées et attendues pendant longtemps.
Ah oui, hier c'était quand même le stress du côté d'En Marche, parce que
Richard Ferrand. Il paraît que marcher ça déstresse, mais enfin bon. pas sûr.
C'était le stress parce que conférence de presse de Richard Ferrand, qui est un peu l'homme clé du dispositif de Macron, qui faisait une conférence de presse sur la chaîne publique
nationale,
et qui a annoncé, je vais vous annoncer et vous livrer à vous, journalistes, le dossier de presse avec le nom de tous les candidats.
Alors, ne les cite pas tous, revenons chez nous.
Non, alors, stress, parce que c'est vrai, encore à 5 heures, on n'avait pas le nom de celui qui aurait l'investiture sur Narbonne.
Voilà, c'est fait.
C'est tombé.
C'est M. Alain Perea,
qui est le directeur en titre du parc de la Narbonnaise, qui est aussi le maire du Vildaigne, qui est aussi vice-président de l'agglo, de l'économie, etc. Bon, donc c'est pas un personnage inconnu dans le Landerneau,
qui est venu assez souvent à ce micro et qui y reviendra.
J'ajoute que, pour la petite histoire, pour replacer la personnalité d'Alain Perea dans le dispositif politique local, qu'il avait fait la campagne de Didier Conournou en 2012, qui était arrivé juste derrière Madame Fabre, avec 22 et quelques pourcents des voix. Donc,
derrière moi.
Et derrière Gelpi, donc il était. Et j'avais effectivement, je ne sais pas si tu en souviens, Jean-Claude, ici même, et dans mon blog, fait un billet dans lequel j'expliquais, je donnais toutes les raisons objectives qui faisaient de sa candidature, de mon point de vue, encore une fois, je peux me tromper, mais là, en l'espèce, je ne me suis pas trompé, faisait certainement le meilleur profil qui permettrait à Marche de faire le meilleur score.
Voilà, les dieux t'ont entendu apparemment.
Oui, je ne sais pas si ce sont les dieux, mais en tout cas, apparemment, on a fait une analyse un peu fine sur une circonscription qui t'a après tout gagnable, quoi. Hein, parce que tout à l'heure je disais que le second serait dans une zone en fait entre 18 et 20%. Objectivement, hein, Perea, s'il maintient effectivement le score de En Marche au premier tour de la présidentielle sur Narbonne, il est dans cette zone. Et comme je disais précédemment pour Michel Lupi, il pourrait lui aussi tirer le marron du feu et se retrouver en seconde position et donc combattre le FN.
On marque une pause et on va revenir avec Michel Lupi, bien entendu, sur cette situation.